J'aimerais ce matin vous proposer une réflexion, une méditation à partir d'un verset de l'Épître aux Éphésiens. Il s'agit, on va attendre que la technique suive. Voilà, merci. Il s'agit d'Éphésiens chapitre 5, verset 2, où l'apôtre Paul écrit « Et marchez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. » Dans ce verset, c'est en particulier l'expression « marcher dans l'amour » qui a retenu mon attention. Le contexte immédiat de ce verset est celui de l'imitation de Dieu. Dans le verset qui précède, l'apôtre Paul écrit « Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. » Le « donc » Imiter donc Dieu renvoie à ce qui précède, à ce que l'apôtre vient juste de dire dans le verset qui termine le chapitre 4. Il dit « Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Imitez donc Dieu. » Comme des enfants bien-aimés. L'imitation de Dieu dont parle l'apôtre ici est donc celle de son pardon, de sa grâce. Et Paul donne deux raisons, deux arguments pour appuyer cet impératif, imiter donc Dieu. Premièrement, nous devons nous faire grâce réciproquement parce que Dieu nous a fait grâce. Comment pourrait-il en être autrement, alors que nous sommes au bénéfice d'une grâce si grande? Et puis deuxièmement, nous devons nous faire grâce réciproquement parce que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu et que, comme tous les enfants imitent leurs parents, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, imiter notre Père Céleste. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. Avec le verset 5 du chapitre 2, ce verset qui nous intéresse donc ce matin, l'apôtre va élargir la sphère de l'imitation. Il va passer du pardon à l'amour. Il va passer de l'imitation du Père par le pardon à l'imitation du Christ par l'amour. Alors bien évidemment, les deux sont étroitement liés, mais c'est ainsi que l'apôtre écrit ensuite « Marchez dans l'amour ». Et j'aimerais maintenant lire les trois versets ensemble. « Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. » Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. L'Écriture très souvent compare la vie du croyant à une marche. C'est de loin l'image la plus courante. Le verbe « marcher » est utilisé à peu près une centaine de fois dans le Nouveau Testament au sens figuré pour parler de la vie chrétienne, de la manière dont Dieu nous appelle à vivre notre foi, de la manière dont il nous appelle à nous conduire en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est bien évidemment au sens figuré qu'il faut comprendre l'impératif de notre texte. Nous pourrions donc échanger « marcher dans l'amour » avec « conduisez-vous avec amour » ou alors « ayez pour conduite l'amour ». Si l'image de la marche est si fréquente dans la Bible pour parler de la vie du croyant, c'est sans doute parce qu'elle est appropriée, particulièrement appropriée pour cela. Appropriée parce que dans la vie chrétienne comme dans la marche, il y a un moment où nous nous mettons en mouvement. Il y a un commencement qui pour le chrétien s'appelle la conversion. Appropriée parce que dans la vie chrétienne comme dans la marche, nous avançons vers un but. La marche sans but, ça s'appelle de l'errance, de la divagation. La marche chrétienne, la marche de la foi, est une marche avec une espérance, une marche avec un objectif, un but que Dieu nous donne pour horizon. Approprié parce que dans la vie chrétienne comme dans la marche, c'est en faisant un pas à la fois, un pas après l'autre que l'on avance. Que l'on avance et que l'on peut aller loin, que l'on peut franchir les obstacles pour finalement atteindre le but. Approprié parce que dans la vie chrétienne comme dans la marche, nous avons besoin de bonnes chaussures, c'est-à-dire que nous avons besoin d'être bien équipés pour avancer, bien équipés pour tenir la distance. Et Dieu nous équipe de tant de manières, par son esprit, par son fruit, par ses dons. Approprié enfin parce que dans la vie chrétienne comme dans la marche, un plan ou un GPS sont indispensables pour ne pas se perdre, pour éviter les impasses et les fausses routes, les ornières et tous les dangers du chemin. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est pourquoi Dieu nous a donné Jésus, le bon berger, la parole faite chair, qui marche devant nous, qui nous ouvre le chemin et qui nous conduit. Ces quelques déclinaisons du caractère approprié de cette image de la marche ne sont bien évidemment pas exhaustives, mais je pense qu'elles suffisent largement pour nous faire comprendre combien cette image est appropriée pour parler de la vie du croyant, de la vie du disciple, de la vie du chrétien. Il n'est pas étonnant donc que nous utilisions nous-mêmes souvent cette image de la marche dans notre vocabulaire de tous les jours. Quand nous parlons de la vie chrétienne, très souvent, nous la comparons nous aussi à une marche. Et c'est ainsi que nous parlons et que nous chantons régulièrement la vie chrétienne comme un chemin, comme une route, comme un sentier, le chemin de la foi sur lequel Dieu nous appelle à marcher. Nous sommes en chemin, disons-nous, et c'est vrai, nous le sommes. Et nous valorisons à juste titre en disant cela, cette réalité pour souligner l'importance du facteur temps, pour rappeler que la vie chrétienne est un apprentissage, une école, une construction qui se fait pas à pas, pas à pas, au fur et à mesure. La vie chrétienne est bien comme une marche. Revenons à notre texte. Celui-ci ne se contente pas de nous inviter à marcher. Paul ne dit pas simplement « marcher ». Allez, marcher. Il précise. Il nous dit comment le faire. Marcher dans l'amour. La marche de la vie chrétienne, ce n'est pas juste avancer. Ce n'est pas juste progresser, ni même juste atteindre le but. Si la progression et la finalité sont importantes, la manière ne l'est pas moins. C'est pourquoi Paul ne dit pas simplement marcher, mais il précise marcher dans l'amour. La manière dont nous marchons est importante. Dieu y attache de l'importance. La marche chrétienne est une marche qualifiée. c'est une marche dans l'amour. Notons rapidement qu'il existe des expressions synonymes à cette expression de notre texte. Je ne prends que ce que Paul dit par ailleurs dans cette même épître aux Éphésiens, où il dit au chapitre 4, verset 1, « Marcher d'une manière » où il nous invite à marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Une autre manière de dire « marcher dans l'amour ». Ou encore un peu plus loin, au verset 8 du chapitre 5, où il nous invite à marcher comme des enfants de lumière. Existe-t-il une alternative ? Existe-t-il une alternative à cette marche dans l'amour ? Oui, il en existe une. Et l'apôtre en a déjà parlé dans les chapitres précédents. Il en a précisément parlé au chapitre 2. Là, il dit « Pour vous, en parlant à ces Éphésiens, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » L'alternative ou le pendant négatif à la marche dans l'amour, c'est la marche dans le péché. C'est la marche dans ses péchés. Alors que veut dire marcher dans ses péchés ? Je vais le dire avec les mots du texte que Paul utilise à la suite, au verset 3. Il continue, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Marcher dans ses péchés, c'est faire ce que notre nature pécheresse nous invite à faire. C'est faire ce qu'elle nous pousse à faire. C'est faire sa volonté. Et sa volonté, c'est de nous faire pécher. Sa volonté, c'est de nous faire croire que nous pouvons nous passer de Dieu, que nous pouvons vivre avec notre propre sagesse, que nous n'avons pas besoin de sa parole. C'est de nous inciter à vivre égoïstement, sans tenir compte ni de Dieu, ni des autres. Sa volonté, la volonté de notre nature pécheresse, c'est que nous marchions dans le péché, dans nos péchés. Nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles et nous exécutions les volontés de notre chair. Les volontés de notre chair. Le scénario que je suis en train de décrire, cette alternative à la marche dans l'amour, n'est pas juste le scénario de notre vie avant le Christ. C'est aussi un scénario possible pour la vie chrétienne. Je ne suis pas en train de parler ici que de ceux qui n'ont pas la foi. Je peux être chrétien et marcher dans le péché. Marcher dans mes péchés. Être chrétien, ce n'est pas être immunisé contre le péché. Être chrétien, ce n'est pas ne plus pécher. Être chrétien, ce n'est pas ne plus être pécheur. C'est être un pécheur pardonné, gracié, sauvé, mais un pécheur quand même. Si le chrétien est une nouvelle création en Christ par l'Esprit Saint qui vient faire sa demeure en lui, il n'en reste pas moins pécheur, vivant avec une nature pécheresse, encline à faire le mal. Alors oui, il y a deux réalités paradoxales qui se côtoient dans la vie du chrétien. D'un côté, la chair. La nature pécheresse, celle que nous avons héritée d'Adam. De l'autre, l'Esprit de Dieu, la nouvelle nature que nous avons reçue par l'Esprit de Dieu, héritée du Christ. Et ces deux réalités sont antagonistes. elles s'opposent. Comme l'eau et l'huile, elles ne peuvent cohabiter. Elles ne peuvent s'unir, elles ne peuvent se confondre, elles ne peuvent s'harmoniser. Mais le problème, c'est qu'elles sont là tous les deux. Elles sont bel et bien en chaque chrétien, en chaque enfant de Dieu né de nouveau. Quand une personne se convertit, la chair ne disparaît pas, elle demeure. Ce qui change, c'est que je reçois cette nouvelle nature, cette vie nouvelle que l'Esprit crée en moi. C'est sa présence dans ma vie. Tant et si bien que le chrétien se retrouve avec ces deux réalités en lui, ces deux natures qui font la guerre, qui se font la guerre et qui génèrent une tension propre à la vie chrétienne et à la vie chrétienne seule. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Galates, nous l'avons étudié il n'y a pas très longtemps, chapitre 5, verset 17, « La chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. » Deux natures qui veulent chacune suivre leur chemin. La chair, c'est le chemin du péché. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Deux natures qui font que nous ne faisons pas toujours le bien que nous aimerions faire et que nous faisons parfois le mal que nous ne voudrions pas faire. Deux natures qui placent le chrétien régulièrement devant des choix à faire. Oui, la réalité de ces deux forces en nous, de cette double nature, engendre non seulement une tension, je l'ai dit, propre à la vie chrétienne, mais nous place aussi régulièrement à la croisée des chemins. Et là, il nous faut faire le choix. Le choix soit de marcher dans l'amour ou celui de marcher dans mes péchés. Le choix de marcher dans l'esprit ou alors celui de marcher dans la chair. Le choix de vivre par l'esprit ou de vivre par la chair. Alors oui, la manière dont je marche a son importance. La nature de mes pas a son importance. Le chemin que j'emprunte pour avancer a son importance. Et par le fait de cette réalité mêlée en moi, je suis souvent à la croisée des chemins. Je suis souvent devant le choix de la manière avec laquelle je vais choisir de continuer à avancer. Je suis devant ce choix régulièrement parce que je ne peux pas marcher sur deux chemins à la fois. Je ne peux pas marcher à la fois dans l'amour et dans mes péchés. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être dans l'amour et vivre égoïstement. C'est l'un ou l'autre et je dois choisir. Croiser des chemins après croiser des chemins. La manière, c'est donc l'amour, mais pas n'importe quel amour. Il est question de l'amour du Christ. Et marcher dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Il n'y a certainement pas de mot plus galvaudé que celui de l'amour. On le met à toutes les sauces. On lui fait dire tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Quand on a parlé de l'amour, on a tout dit et puis on n'a pas dit grand-chose. L'amour qui doit caractériser ma vie chrétienne, ma marche de la foi, ce n'est pas un amour romantique. Ce n'est pas un amour poétique, ce n'est pas un amour platonique, ce n'est pas bien évidemment un amour érotique. L'amour qui doit caractériser ma vie chrétienne, c'est un amour christique. C'est un amour qui s'inspire de celui du Christ, qui cherche à l'imiter. Alors il nous faut définir cet amour du Christ. Qu'est-ce qui caractérise l'amour du Christ pour nous. Alors là, nous pourrions disserter jusqu'à ce soir sans problème. Je vais simplement le dire avec les mots du texte. Tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. L'amour du Christ pour nous, c'est cet amour agapé dont nous parlons si régulièrement. C'est un amour qui se livre, dit le texte, qui se donne, qui s'offre, qui se sacrifie. C'est un amour qui met l'autre en premier. C'est cet amour-là qui a conduit le Christ à la croix, qui l'a conduit là sur la croix à offrir sa vie pour moi, pour chacun de nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Et c'est cet amour-là qui doit caractériser ma vie chrétienne. C'est cet amour-là que je dois rechercher jour après jour. C'est cet amour-là que je dois imiter et marcher dans l'amour tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice. L'amour qui doit caractériser notre vie est donc un amour qui est fait de sacrifice, un amour qui sait donner une place à l'autre, à Dieu en premier et à mon prochain ensuite. Alors j'aimerais suggérer pour terminer que cela n'a peut-être jamais été aussi difficile à vivre qu'aujourd'hui, en 2015, aujourd'hui dans notre monde occidental. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce que nous vivons une époque qui est marquée par un individualisme et un égocentrisme sans précédent. Une époque où les droits semblent toujours primer sur les devoirs. Et l'homme, alors bien sûr, je raisonne comme un Français, un occidental qui vit dans un pays où j'ai tout ce dont j'ai besoin et bien plus encore. Je suis un anti à l'échelle du monde. Je dis cela d'un point de vue d'un Français qui vit dans un pays où largement on travaille 35 heures. Moi, je suis non pratiquant. Et pourtant, l'homme, semble-t-il, n'a jamais eu autant, si l'homme n'a jamais eu autant de temps libre, nous pouvons nous poser la question, est-il plus généreux de son temps pour autant? Le temps libre est un droit, les loisirs sont un droit, les week-ends sont un droit, les vacances sont un droit. Et nous devons nous poser la question, mais que reste-t-il? Que reste-t-il pour le Seigneur? Que reste-t-il pour mon prochain? Que reste-t-il pour mon Église? Que reste-t-il pour marcher dans l'amour? Alors bien évidemment, rien de ce que je viens de mentionner n'est mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est d'en faire la priorité absolue de ma vie. C'est d'en faire la seule raison de vivre ou les seules raisons de vivre de ma vie. Combien il est facile de se conformer au siècle présent. Combien il est facile de suivre la tendance, le courant qui nous entraîne inéluctablement dans cette direction-là. Combien il est facile de ne vivre que pour sa maison, que pour ses loisirs, que pour son confort, que pour son plaisir, que pour ses week-ends, que pour ses vacances, que pour soi, dit autrement. Alors bien sûr, je le répète, rien de tout ça n'est mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est quand ces choses m'empêchent de marcher dans l'amour. Et dans ce domaine en particulier, je crois que nous devons veiller, je dois veiller. Nous devons veiller à ne pas nous conformer au monde dans lequel nous vivons, qui ne vit que pour ces choses-là. Ne pas nous laisser façonner par cette façon de voir les choses, de voir la vie. Ne pas nous laisser façonner par cette manière égoïste de vivre, érigée dans notre société occidentale comme un modèle quasi absolu. Marcher dans l'amour. Un amour qui s'inspire de l'amour du Christ va forcément m'amener à faire des choix et à faire des sacrifices. Ça va m'amener à renoncer à des choses que je peux considérer légitimement comme indues. Ça va m'amener à faire des sacrifices. C'est le prix à payer si je veux marcher dans l'amour. Il est facile de donner de son superflu. Il est toujours plus difficile de donner ce que nous considérons comme un droit, comme un dû. J'ai travaillé, j'y ai droit. Nous devons marcher dans l'amour. Et un petit peu plus loin, dans ce même chapitre 5 de cette épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul revient à la charge et il dit « Veillez donc avec soin à la manière dont vous marchez. » C'est important. Ce n'est pas juste marcher, c'est marcher dans l'amour. Un amour qui imite celui du Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous devons veiller. Veillez donc avec soin à la façon dont vous marchez. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice. Et dans une autre de ses épîtres, l'apôtre Paul dira ceci, « Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez. Marchez de progrès en progrès. Pas de place pour se reposer sur ses lauriers. Vous le faites. Eh bien, progressez encore. Il y a toujours de la place pour du progrès dans cette marche dans l'amour. Si par la grâce de Dieu je marche dans l'amour, eh bien, je dois persévérer et je dois marcher de progrès en progrès. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Je vous invite à quelques instants de méditation silencieuse.